La revue de presse internationale, bonjour Éric Biégala.
Bonjour Guillaume.
Avec pour commencer une aube nouvelle qui se lève sur le Moyen-Orient.
Oui, c'est en ces termes en effet que Donald Trump a présenté la signature d'une déclaration de principe endossée hier par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que par les chefs des diplomaties de Bahreïn et des Émirats Arabes Unis, rapporte ce matin le New York Times. Une déclaration de principe que la Maison-Blanche a baptisée « Accord d'Abraham » en référence au patriarche des trois religions monothéistes, poursuit le quotidien. Concrètement, les trois pays vont donc ouvrir des ambassades les uns chez les autres et nouer des relations économiques dans les secteurs du tourisme, de la technologie et de l'énergie. Les deux monarchies du Golfe sont en effet les troisième et quatrième pays arabes à reconnaître Israël, après la Jordanie et l'Égypte, ce qui confère à ces accords un certain poids. Mais pour autant, remarque Noah Lando dans les colonnes d'Aaretz, si un extraterrestre était descendu pour assister hier à la cérémonie, il aurait pu croire que ces accords mettaient un terme à une guerre longue et douloureuse. Mais de quelle guerre parle-t-on ? Demande Noah Lando. Certainement pas d'un conflit avec les États du Golfe. Israël n'a jamais été en guerre, avec aucun d'entre eux. Alors certes, il s'agit d'accords de paix qui ne mettent aucunement fin à la moindre guerre, mais ils ont tout de même l'intérêt de suggérer que les Émirats Arabes Unis et Bahreïn sont aujourd'hui moins pro-palestiniens que l'Europe, remarque ironiquement le Times of Israel. De manière assez incroyable, explique le quotidien, ces accords ne se réfèrent ni à l'initiative de paix arabe, ni aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ni aux lignes de partage de 1967. Même le concept d'une solution à deux États est entièrement absent de ces accords où les Palestiniens sont à peine mentionnés. C'est assez incroyable, répète encore le quotidien, au point que l'Union européenne n'aurait probablement jamais pu signer un tel accord avec Israël. Dans la presse arabe, tout dépend de quel côté on se place. Du côté de la presse pro-saoudienne, comme le quotidien Ashark al-Awsat, publié à Londres par exemple, on couvre l'événement de manière sobre et plutôt positive, parlant d'accord de normalisation avec Israël. Tandis que dans les médias financés par le Qatar, comme Al Jazeera ou le Middle East Eye, on évoque plus volontiers la condamnation de ces accords par les leaders palestiniens. Le portail de la chaîne Al Jazeera rendant même compte en une de la manifestation d'hier à Ramallah où quelques centaines de Palestiniens ont défilé pour protester contre ces accords d'Abraham.
Alors en Europe, c'est le sort de l'opposant russe numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui occupe plus particulièrement les éditorialistes.
Oui, le blogueur anticorruption, bête noire du régime poutinien, semble se remettre lentement. Pour la première fois hier, il s'est exprimé publiquement par un post sur Instagram auprès des quelques 1 700 000 personnes qu'il suivent sur le réseau social. Un post en une photo et un court texte expliquant qu'il arrivait dorénavant à respirer sans assistance médicale. Alors à Moscou, le déni se poursuit. On se refuse toujours à parler d'empoisonnement de l'opposant. D'ailleurs, le patron des renseignements de la Fédération de Russie, raconte le service en langue russe de la BBC, a assuré qu'aucune trace d'empoisonnement n'avait jamais été retrouvée sur le corps ou dans le corps de Navalny quand il était hospitalisé à Omsk. Et, poursuit-il, ça n'aurait pas pu être un empoisonnement au Novichok, le désormais célèbre agent chimique développé par les soviétiques et qui a failli tuer l'ancien espion Sergei Skripal et sa fille en Angleterre en 2018. Ça n'aurait pas pu être un empoisonnement au Novichok, assure encore le patron du renseignement russe, tout simplement parce que la Russie a détruit tout ses stocks de ce produit. Sergei Narishkin, remarque encore la BBC, en viendrait presque à accuser l'Allemagne d'avoir elle-même empoisonné Navalny au Novichok. En la matière, la réaction de Moscou est en tout point conforme, note encore le correspondant russe de la chaîne britannique, à sa politique bien connue, la meilleure défense, c'est toujours l'attaque. Pourtant, même en Russie, l'empoisonnement de Navalny ne semble pas vraiment faire de doute. L'agence Reuters est ainsi allée interroger les secouristes qui sont intervenus auprès d'Alexei Navalny dès l'atterrissage d'urgence de son avion à Omsk le 20 août. Ils sont unanimes et avaient tous diagnostiqué un empoisonnement dès le début. Quant à la nature du poison, trois laboratoires indépendants en Allemagne, en Suède et en France ont chacun identifié un agent de type Novichok dans les échantillons prélevés sur Alexei Navalny. Les scientifiques de l'Institut de pharmacologie et de toxicologie des forces armées allemandes estiment que la substance découverte est une nouvelle version du composé Novichok, note Der Spiegel. Un nouveau poison 10 fois plus dangereux que les précédentes formes connues, précise encore l'hebdomadaire. Et d'ailleurs, signale Der Spiegel, la composition de ce poison est, pour les autorités allemandes, la plus importante indication comme quoi le président russe Vladimir Poutine pourrait être directement impliqué dans cette tentative d'assassinat. En effet, plus la composition chimique du poison est complexe, note le journal, plus elle est nouvelle et peu commune, plus il semble certain qu'il n'a pu être obtenu qu'avec l'aide de l'appareil d'État russe. Or, l'appareil d'État, aujourd'hui en Russie, c'est en grande partie Vladimir Poutine.
Merci beaucoup Éric Biégala.